RFI. Grand reportage, Xavier Besson.
Il y a tout juste 50 ans, en Indonésie, le massacre d'au moins 500 000 personnes et l'emprisonnement de milliers d'autres marquaient le début de la dictature du général Suharto. Aujourd'hui, 15 ans après la chute du dictateur, ces événements de 1965 et 66 sont toujours absents des livres d'histoire et sont comme gommés de la mémoire collective indonésienne. Seulement, les victimes et leurs familles attendent toujours que la vérité éclate et que justice leur soit rendue. C'est le sujet du grand reportage d'aujourd'hui, grand reportage de Marie Dumière.
Sur le trottoir en face du palais présidentiel de Jakarta, une cinquantaine de manifestants installent des banderoles au sol. Tous ramassent ensuite un parapluie noir, l'ouvrent au-dessus de leur tête et se tournent vers le palais présidentiel. Kusnandar, un ancien prisonnier politique de 83 ans, explique attendre qu'enfin quelqu'un en sorte et vienne les voir.
C'est ce qu'on espère, mais c'est juste un rêve, juste un rêve.
Un rêve, peut-être. Mais Kusnandar et les autres ne comptent pas renoncer. Ils sont là tous les jeudis, à 16h, qu'il pleuve, que le soleil tape, qu'importe, ils sont à l'abri, sous les parapluies noirs devenus symboles de leur mouvement. Sous l'œil indifférent de quelques policiers, ils restent plantés là, devant le palais, pour demander à ce que le gouvernement enquête enfin sur les crimes commis par l'État indonésien.
Je viens ici tous les jeudis. Ça fait combien de temps déjà ? 409, 410 fois ? Ah oui, c'est ça, 410. On vient ici pour demander justice, réclamer la vérité aux dirigeants du gouvernement. Ce qu'on veut, c'est la réhabilitation. Mais pour l'instant, on n'a eu aucune réaction, aucune réponse.
Fin septembre 1965, 6 généraux indonésiens sont assassinés à Jakarta lors d'une tentative de coup d'État. Aucune preuve n'est apportée, mais pour l'armée, aucun doute, c'est le parti communiste qui est responsable. Emmené par le général Suharto, une répression sanglante commence alors à travers le pays. Paysans, intellectuels, professeurs, syndicalistes, l'armée et les milices locales assassinent ce qui dérange, ce qu'ils soupçonnent d'être de près ou de loin lié au parti communiste. Des milliers d'autres sont arrêtés et envoyés en prison sans procès. Les chercheurs parlent d'au moins 500 000 victimes, mais sur son lit de mort en 1989, le commandant des forces spéciales à l'époque des massacres déclare que 3 millions de personnes ont été tuées entre 1965 et 1966. Suderno aussi est un ancien prisonnier politique. Il vient du centre de l'île de Java, une des régions les plus touchées par la répression. À l'époque, dans son village, les milices anticommunistes incendient des centaines de maisons, assassinent impunément. Il se rappelle.
Certains ont été tués pendant leurs interrogatoires, d'autres la nuit. Ils les emmenaient dans des endroits isolés et les fusillaient dans la forêt. Il y a des gens, je me rappelle, à qui on a demandé de se battre, deux frères, et puis finalement, ils les ont tués tous les deux d'un coup de hache dans la tête.
Suderno avait 19 ans à l'époque. Il a survécu, mais a passé 14 ans en prison. Un enfer, raconte-t-il.
Là-bas, c'était horrible. Ils ne nous donnaient quasiment pas à manger. On avait seulement le droit à du maïs ou du manioc. 20 ou 30 grains de maïs par jour ou un bout de manioc pourri. Et comment ils nous donnaient de l'eau, c'était inhumain. Ils faisaient couler un peu d'eau à travers les barreaux de la cellule. On l'attrapait avec nos t-shirts, nos chapeaux ou nos sous-vêtements. Et puis on les essorait pour pouvoir boire.
Comme beaucoup des victimes, Suderno n'a jamais été communiste. Lui faisait partie d'une organisation culturelle associée au parti. Assez, pour ses bourreaux, pour le soumettre à des années d'interrogatoires absurdes.
Quand il nous interrogeait, on était tout le temps battus, torturés. Il nous battait avec des branches de rotin, de bambou, des barres de fer. Ils ne voulaient pas se servir de leurs poings pour ne pas se faire mal. On m'accusait de faire partie du groupe qui avait assassiné les généraux. Mais je ne savais rien de cette histoire, moi. Je n'avais jamais été à Jakarta.
En 2012 et après 3 ans d'enquête, la Commission nationale des droits de l'homme indonésienne publie ses conclusions sur les événements des années 1965 et 1966. Nur Kholis, directeur de la commission, dirigeait l'équipe d'investigation.
On a découvert qu'il y avait eu des violations flagrantes des droits de l'homme. Meurtres, abus sexuels, tortures, disparitions, esclavage, principalement dans le camp de détention de Buru, où les prisonniers travaillaient dans les champs sans salaire. Et on a aussi découvert que dans certains endroits, les crimes ont été commis par des dirigeants locaux ou alors que les dirigeants n'ont rien fait pour aider les victimes.
La commission d'enquête récolte plus de 300 témoignages de victimes, mais pour les autorités, cela ne suffit pas. Le rapport est rejeté 3 fois, officiellement pour manque de preuves. Les responsables n'ont jamais été inquiétés. Andreas Arsenault est le représentant de Human Rights Watch dans le pays.
Les meurtriers et leurs descendants sont en gros l'élite au pouvoir en Indonésie aujourd'hui, de la capitale Jakarta aux capitales des provinces. Les dirigeants sont plus ou moins des descendants, ils contrôlent le pays. Vous imaginez si l'Allemagne d'aujourd'hui était dirigée par les descendants des nazis ?
Alors, on se tait. Nombreux historiens et intellectuels du pays se refusent toujours à aborder le sujet, de peur d'être taxés d'antipatriotisme, explique l'historien Ilmar Farid.
Si vous avez un avis négatif sur les massacres, ça veut dire que vous êtes du côté du parti communiste. C'est le genre de choses que l'on entend lors de discussions publiques. Ça m'arrive tout le temps. J'essaie d'expliquer que beaucoup de gens ont été tués, que ce qui s'est passé c'était mal, qu'il devrait y avoir des enquêtes sur cette période de l'histoire. Et la question qu'on me pose, c'est pourquoi une telle volonté de fouiller ce passé-là ? Pourquoi être si négatif sur ces événements ? C'était la bonne chose à faire. L'armée est intervenue pour sauver la nation indonésienne des communistes. Alors pourquoi en faire un problème ? Pourquoi même en parler ?
Une situation d'autant plus absurde, assure Ilmar Farid, que tous les Indonésiens ou presque sont liés, parfois sans le savoir, à cette page noire de l'histoire du pays.
Quasiment chaque famille est d'une manière ou d'une autre connectée à 1965, aux violences de 1965, soit du côté des victimes, soit du côté des responsables.
Le régime de Suharto a été bâti sur la propagande anticommuniste. Pendant 30 ans de dictature, on a répété aux Indonésiens qu'il fallait se méfier de cette menace latente des communistes dont le seul but était de détruire la nation indonésienne. Symbole de cette propagande, un film particulièrement violent, La trahison des communistes. Pendant la dictature de Suharto, les élèves devaient obligatoirement le regarder tous les ans, le 30 septembre, la date de l'assassinat des généraux en 1965. Lara et Andrea ont 27 ans, ils vivent à Jakarta. Comme tous les Indonésiens qui ont grandi pendant la dictature, ils ont vu ce film plusieurs fois.
Oh oui, le film est vraiment violent.
Il y a une scène, il coupe le visage du général et il presse un citron dedans. Après, il le jette dans le trou et lui tire dessus.
Pour ce qui est des massacres des communistes, par contre, rien. Lara et Andrea se promènent à côté du palais présidentiel, mais ne savent pas qui sont ces manifestants au parapluie noir ni ce qu'ils font là. Ils savent que les communistes sont des gens violents, qu'ils ont tué les généraux, mais les massacres de 1965, non, ils n'en ont jamais entendu parler. Hélène Outabarat aussi a grandi dans la peur de la menace latente du communisme. Ce n'est que lorsqu'elle est rentrée à l'université il y a quelques années qu'elle a enfin compris qu'avant sa naissance, son père avait passé près de 10 ans dans le terrible camp de détention de l'île de Buru, comme 12 000 autres prisonniers politiques.
J'ai compris son histoire petit à petit. Quand j'avais 10 ans, j'étais chez les voisins et le père a dit « Hélène, c'est une fille de communiste ». J'ai dit « Quoi ? Mais non !» Il a dit « Si, demande à ta mère. » J'ai demandé à ma mère « Est-ce que c'est vrai que mon père est un communiste ?» Parce qu'à l'époque, moi j'aimais bien l'école, j'aimais bien apprendre et j'ai grandi en détestant les communistes à cause de la propagande. Et mes parents n'ont jamais rien dit. Et bien sûr, ma mère a dit « Non, c'est n'importe quoi !» Et c'est tout, la conversation était finie.
Aujourd'hui, le père d'Hélène est décédé. Elle regrette de ne jamais avoir eu une conversation franche avec lui sur le sujet, mais ce qu'elle trouve insupportable surtout, c'est ce silence injuste que son père s'est imposé.
Chaque 30 septembre, on devait regarder ce film. Mon père me laissait faire, il ne m'en a jamais empêché. Il n'en a jamais parlé. C'est pour ça que c'était très dur pour moi, quand j'ai découvert son histoire, d'imaginer ce qu'il avait dû ressentir dans ces moments. Mais il ne m'a jamais rien dit pour me protéger. Mes parents ont vu ce qui est arrivé aux gens quand on apprenait qu'ils étaient des anciens prisonniers politiques, à quel point leur vie était difficile. Ils voulaient juste me protéger.
Aujourd'hui, le film de propagande n'est plus obligatoire à l'école, mais dans les livres scolaires, toujours pas un mot sur les massacres de 1965. Iwan Kourniadi est professeur d'histoire dans un lycée de Jakarta. Il ouvre un manuel d'histoire, parcourt les 10 pages consacrées à cette période et explique.
On ne se concentre que sur les assassinats des généraux de l'armée. Pour ce qui est des autres victimes, cela ne fait pas partie du programme. Ce n'est pas enseigné aux étudiants.
En 2004,
pourtant, le ministère de l'Éducation a fait retirer des manuels scolaires le passage sur la responsabilité du Parti communiste dans les assassinats des généraux. Mais après 3 ans de pression des groupes anticommunistes et de l'armée, les livres ont été retirés des écoles. Dans certains coins d'Indonésie, ils ont été brûlés publiquement. Assis sur un banc dans la cour du lycée, Jalou, 17 ans, rigole avec ses copains.
Les communistes, on nous dit que ce sont les coupables, c'est l'ennemi. Ce qu'on nous apprend à l'école, c'est toujours que Suharto était un héros et que les communistes étaient les méchants, qu'il fallait les exterminer.
Pour Alfian Tanjung, le dirigeant du mouvement national patriotique indonésien, les événements de 1965 sont loin d'être un sujet tabou. Non, il déclare volontiers que les massacres étaient nécessaires.
Vous ne devriez pas penser que ceux qui ont tué les communistes sont les méchants. N'oubliez pas qu'avant ça, les communistes ont commis énormément de crimes, et ce, depuis très longtemps. Il faut tuer les tueurs, c'est nécessaire.
Le Parti communiste et l'enseignement du communisme sont pourtant toujours interdits en Indonésie. Régulièrement, les réunions des victimes de 1965 sont interrompues dans la violence par des groupes comme celui d'Alfian Tanjung. La police ferme généralement les yeux. Certes, 15 ans après la chute du régime de Suharto, quelques petites avancées ont été faites. Depuis quelques années, les cartes d'identité des anciens prisonniers politiques ne portent plus la mention ET pour ex-Tapol, ancien prisonnier politique. Les anciens prisonniers politiques ont enfin le droit de vote et peuvent travailler dans la fonction publique. Mais aujourd'hui, ils ne veulent plus avoir peur. Ils demandent que leur nom soit blanchi, que la vérité éclate et que justice soit faite. Alors, pour enfin changer l'histoire, des associations de victimes, des avocats, ont décidé de prendre les choses en main. En novembre prochain, aux Pays-Bas, un tribunal populaire international jugera des crimes commis en 1965. Noor Kachasungkana est avocate et la coordinatrice du tribunal populaire.
Les victimes attendent depuis 50 ans que le gouvernement leur rende justice, qu'il prenne ses responsabilités. Mais jusqu'à présent, rien ne laisse penser que le gouvernement compte s'intéresser à ce sujet. On en est donc arrivé à la conclusion que le gouvernement indonésien ne veut pas ou ne peut pas s'attaquer à l'impunité.
Les victimes espèrent que ce tribunal forcera l'État indonésien à affronter son passé. Pour Noor Kholis, de la Commission nationale des droits de l'homme, le président actuel peut faire la différence. Élu en 2014, Joko Widodo est le premier président indonésien à n'avoir aucun lien avec l'ancien régime de Suharto. Il représente une nouvelle génération. C'est lui, explique Noor Kholis, qui doit se saisir du dossier.
La première étape, c'est la reconnaissance de la vérité. Ensuite, il faut que le président s'excuse auprès des victimes, de toutes les victimes. Et enfin, la dernière étape, c'est l'indemnisation des victimes. Mais l'étape la plus importante dans le processus de réconciliation, c'est la vérité. Ce pays a besoin de la vérité.
La vérité, Joshua Oppenheimer a décidé d'en parler dans 2 documentaires poignants. Le deuxième vient juste de sortir en France. Dans le premier film, L'acte de tuer, le réalisateur donne la parole aux tueurs. Petits chefs de milice ou gouverneurs locaux, tous décrivent sans gêne aucune les massacres, les actes de torture auxquels ils ont participé. Témoignage flagrant de l'impunité dont bénéficient les bourreaux, le film a reçu de nombreux prix à l'étranger, mais n'est pas sorti en salle en Indonésie. L'équipe indonésienne qui a travaillé sur le tournage a choisi de rester anonyme par peur des représailles. A raison, selon le co-réalisateur du film, qui explique avoir reçu de nombreuses menaces.
Ils nous accusent en fait d'être un groupe de néo-communistes faisant semblant d'être réalisateurs de films et se cachant derrière l'anonymat pour faire de la propagande communiste. Donc, dans les mails de menaces que nous recevons, généralement, ils disent qu'ils vont se venger, nous tuer, nous décapiter et se servir de notre tête comme d'un ballon de foot.
Assis à une table dans le café que tient sa femme, Tejo Bayou, un vieil homme, frêle, aux cheveux blancs, sort de son sac une pile de petits cahiers d'écoliers aux pages jaunies. Il les pose sur la table, les ouvre avec précaution. L'écriture est serrée, chaque espace compte. Ce sont les carnets qu'il tenait dans le camp de détention de Bourou, où il a passé 10 ans. Pour oublier les travaux forcés et la mort des compagnons, dit-il, on partageait nos connaissances, pour ne pas devenir fou. Dans les carnets de Tejo Bayou, on trouve ses souvenirs, les plans de la maison de ses rêves et des cours de français. Tejo Bayou rit, il est vieux maintenant, et les seuls mots dont il se rappelle en français, ce sont ceux que sa mère, elle aussi emprisonnée pendant des années, lui a dit à sa sortie de prison.
La première fois que j'ai revu ma mère après Bourou, je m'attendais à ce qu'elle pleure. Mais non, elle m'a juste serré la main et elle a dit « c'est la vie ». Juste ça.
Dans les carnets, on trouve aussi des paroles de chansons, des tubes américains des années 50 pour la plupart, que Tejo Bayou chantait avec ses compagnons.
On prend des chansons qu'on connaît et on essaie d'écrire les paroles. Ricky Nelson, c'était un chanteur américain de l'époque. Someday, c'était une chanson populaire.
Someday, c'est une popular song. I know that someday you want me to want me. When I'm in love with somebody.
Un jour, Tejo Bayou et les autres l'espèrent. Leurs histoires, celles qu'ils notaient dans leur carnet d'écoliers au camp de Bourou, se retrouveront enfin dans les manuels d'histoire des prochaines générations.
I know that someday...
Indonésie, les victimes de la dictature privée de mémoire, un reportage de Marie Dumière, réalisé par Souel Kedir.
Marie Dumière, bonjour.
Bonjour.
En octobre 1965, débutait donc cette terrible répression en Indonésie. Aujourd'hui, cela fait 50 ans. Est-ce qu'il va y avoir des commémorations en Indonésie ?
Eh bien, c'est peu probable. Hein. Bien sûr, les associations de victimes se réuniront sans doute, mais au niveau national, au niveau de l'État, il y a de fortes chances qu'il ne se passe rien. 30 ans de propagande anticommuniste, ça laisse des traces, et la très grande majorité des Indonésiens n'ont aucune idée de ce qu'il s'est vraiment passé à cette époque, et surtout, eh bien, ça ne les intéresse pas.
Comment se fait-il qu'après la chute de Mohamed Suharto, après la fin de la dictature, on n'ait pas commencé à parler de cette page de l'histoire indonésienne ?
Eh bien, au début des années 2000, juste après la chute de Suharto, beaucoup de victimes de 1965 ont effectivement cru que grâce à la réformatie, la réforme promise par les dirigeants, on allait enfin reconnaître les terribles erreurs de l'État indonésien, que justice leur serait rendue. Et comme on le sait, eh bien, ce n'est pas ce qu'il s'est passé. Et comme l'expliquent les analystes, c'est parce que les hommes au pouvoir sous le dictateur Suharto, eh bien, ils sont restés au pouvoir, ils sont toujours là.
Joko Widodo, le président indonésien élu en 2014, a fait des droits de l'homme une priorité pendant sa campagne présidentielle. Est-ce qu'il peut, lui, changer quelque chose ?
Eh bien, c'est bien sûr ce qu'espèrent les victimes. Nur Kholis, le chef de la commission des droits de l'homme, qui a mené une enquête de 3 ans sur les massacres de 65, il a rencontré le président à ce sujet et il est plutôt optimiste. Hein. Il paraîtrait que le président réfléchit même à présenter ses excuses aux victimes au nom de l'État indonésien. Maintenant, reste à savoir s'il va pouvoir le faire. Le Parlement indonésien s'est déjà opposé à ce plan. Selon le vice-président du Parlement, s'excuser, cela troublerait l'ordre public, dit-il. Les victimes, bien sûr, espèrent que le président indonésien aura le courage de passer outre.
Marie Dumière, merci d'avoir été avec nous pour votre grand reportage en Indonésie, grand reportage que l'on peut retrouver en intégralité sur notre site internet sur rfi.fr.
Tous les jours, Accent d'Europe vous propose